VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 21 juillet 2022. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia pour commencer les titres. Bamako expulse Olivier Salgado, le porte-parole de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. En Guinée, des médiateurs de la CEDEAO, dont l'ex-président béninois Thomas Boni-Yayi, discutent de la transition avec la junte. Une ONG marocaine impute à Rabat et Madrid la responsabilité du drame de fin juin à Melilla, qui a coûté la vie à 27 migrants africains. Kinshasa appelle à la condamnation du Rwanda pour la guerre dans une aire protégée de la RDC. Les États-Unis veulent mobiliser des milliards de dollars pour l'Afrique en partenariat avec le secteur privé, annonce la chef du MCC. Et le président Joe Biden annonce un sommet avec une cinquantaine de dirigeants africains du 13 au 15 décembre ici à Washington. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le Mali a ordonné hier l'expulsion du porte-parole de la MINUSMA, une nouvelle manifestation de la brouille diplomatique entre les autorités militaires maliennes et leurs partenaires internationaux, Jacques Aristide.
Bamako reproche à Olivier Salgado, de nationalité française, d'avoir posté sur Twitter des informations qualifiées d'inacceptables au lendemain de l'arrestation de 49 soldats ivoiriens dans la capitale malienne la semaine dernière. Hier, le gouvernement malien a donc invité le porte-parole de la mission de l'ONU au Mali à quitter le territoire dans un délai de 72 heures. À New York, l'ONU dit regretter profondément cette décision. Elle souligne que la doctrine de persona non grata ne s'applique pas aux agents de l'ONU en ajoutant que les mesures appropriées seront prises. Olivier Salgado a publié en tant que porte-parole des Nations Unies au Mali des éléments de communication de la MINUSMA sur cette affaire des 49 militaires ivoiriens interpellés. Ceux-là, qualifiés de mercenaires par Bamako, étaient, selon Abidjan, des éléments de soutien au contingent ivoirien de la MINUSMA. Il devait toujours, d'après la Côte d'Ivoire, prendre la relève d'autres Ivoiriens déployés au Mali. Selon le tweet du porte-parole de la MINUSMA le 11 juillet, l'information de cette relève aurait été préalablement communiquée aux autorités nationales, ce que Bamako a démenti.
En Guinée, le président en exercice de la CEDEAO, le Bissau-Guinéen Oumarou Sissoko Embalo, et le président de la commission de la CEDEAO, le Gambien Oumar Aliou Touré, et l'ex-président béninois Thomas Boni-Yayi, ont rencontré hier à Conakry le chef de la junte et des officiels guinéens et étrangers. À l'ordre du jour, le retour au pouvoir des civils en Guinée selon un représentant de la CEDEAO et la télévision publique. Le colonel Mamadi Doumbouya, qui a renversé le 5 septembre le président Alpha Condé, s'est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de 3 ans. Ce délai a été rejeté par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, favorable à une transition plus courte lors d'une réunion le 3 juillet à Accra. Au Nigeria, l'armée a annoncé mercredi avoir retrouvé une ancienne élève des 276 filles de Chibok avec son fils de 2 ans. Il s'agit de la 3e en 2 mois. Plus de 100 sont toujours portés disparus. Selon les vidéos de propagande, beaucoup auraient été mariés de force à des combattants djihadistes. Un groupe de défense des droits humains a déclaré hier que les autorités marocaines et espagnoles sont responsables de la tragédie du mois dernier, au cours de laquelle au moins 27 migrants sont morts en tentant d'entrer illégalement dans l'enclave espagnole de Melilla depuis le Maroc. Le point avec Michel Joseph.
La tragédie du 24 juin est due à une répression sans précédent de la part des autorités marocaines avec la complicité de leur homologue espagnol, a déclaré Omar Nagy de l'Association marocaine des droits de l'homme à Rabat. Lors de la présentation de rapport de l'AMDH, il a parlé de crimes ignobles et résultats de politiques migratoires meurtrières. Il a accusé les forces marocaines d'avoir utilisé massivement des gaz lacrymogènes alors que les migrants tentaient de pénétrer dans un poste frontière exigu ou d'escalader une barrière métallique surmontée de barbelés. Un autre groupe de défense des droits de l'homme, le CNDH, proche de l'État marocain, a déclaré que 23 migrants sont morts, probablement par asphyxie, dans la bousculade de quelques 2000 personnes qui ont voulu entrer de force à Melilla. Mardi, un tribunal marocain a condamné 33 de ces migrants clandestins à 11 mois de prison chacun, pour entrée illégale, et un procès de 29 autres migrants, dont un mineur, doit reprendre le 27 juillet.
Les autorités congolaises ont invité hier à Kigali les participants à un congrès sur les aires protégées à condamner le Rwanda pour le soutien qu'il apporte, selon Kinshasa, à une rébellion active dans un parc naturel de l'Est de la République démocratique du Congo. Sachez que le pays qui vous reçoit soutient un groupe rebelle M23 qui tue, pille et saccage une aire protégée inscrite sur la liste du patrimoine mondial, le parc des Virunga, a déclaré à la presse Moderon Simba, le ministre congolais du tourisme. Le Rwanda dément soutenir le M23. Le président américain Joe Biden a annoncé hier la tenue d'un sommet du 13 au 15 décembre ici à Washington entre les États-Unis et une cinquantaine de dirigeants africains. Le sommet visera à établir un nouvel engagement économique, à promouvoir la démocratie et les droits humains, à faire progresser la paix et la sécurité et à relever les défis tels que la sécurité alimentaire et le changement climatique, a dit M. Biden. Par ailleurs, Washington veut mobiliser des milliards de dollars en relations commerciales et en investissements en faveur du continent africain, en partenariat avec le secteur privé pour créer des emplois et bâtir une croissance économique inclusive et durable à travers le continent africain. C'est ce qu'a dit Alice Albright, PDG du MCC, l'agence de développement américaine, Millennium Challenge Corporation, chef de la délégation américaine à un colloque d'affaires USA-Afrique qui s'est ouvert mercredi au Maroc. Amnesty International a appelé ce jeudi à une enquête indépendante et efficace sur des exécutions de centaines de civils en juin dans la région éthiopienne de l'Oromia après avoir recueilli des témoignages accusant les rebelles de Lola, l'armée de libération Oromo. Celle-ci dément.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden, paralysé au Congrès et limité par la Cour suprême, tente malgré tout de relancer ses promesses climatiques. Hier, il a annoncé de nouvelles mesures réglementaires au moment où une vague de chaleur étouffe les États-Unis et plusieurs pays européens. Le point avec Eric Manerakidza.
Le changement climatique est un danger clair et immédiat, ainsi qu'une menace existentielle pour notre nation et le monde, a déclaré hier soir le président américain Joe Biden. La santé de nos concitoyens est en jeu, ainsi que notre sécurité nationale et notre économie, a-t-il ajouté, en visite dans l'État du Massachusetts, sur le site d'une ancienne centrale au charbon très polluante, en voie de reconversion vers l'énergie éolienne. Puisque le Congrès ne fait pas ce qu'il devrait, a regretté le président démocrate de 79 ans, « Je vais utiliser mes pouvoirs exécutifs. » Il a dévoilé des fonds supplémentaires pour aider à protéger les régions confrontées à la chaleur extrême et des mesures pour stimuler la production d'énergie éolienne aux États-Unis. Cependant, M. Biden n'a pas, du moins pour le moment, déclaré l'état d'urgence climatique, comme le réclament certains élus de son parti. Au moment où Joe Biden parlait, de grandes parties de l'Europe étouffées dans la canicule, tandis que les États-Unis n'étaient pas épargnés, environ 100 millions de personnes y vivent actuellement dans des zones concernées par des alertes de grande chaleur ou de chaleur excessive.
L'Espagne déplore plus de 500 morts liées à cette vague de chaleur qui s'est abattue sur l'Europe de l'Ouest en semant des incendies dévastateurs et en faisant grimper les températures à des niveaux records. La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Congo-Brazzaville vient de réviser son budget exercice 2022 à 2825 milliards de francs CFA contre 1925 milliards auparavant. Cette hausse de 900 milliards de francs CFA, soit 46%, est tributaire de celle des recettes pétrolières et de la relance des discussions avec les partenaires au développement. Elle devrait contribuer aux dépenses d'aide sociale, de santé, d'éducation et d'infrastructures. L'exécutif congolais vise à maintenir l'équilibre entre la reprise économique et la viabilité de la dette, la rationalisation des subventions induites par l'augmentation des prix de l'énergie et l'application du plan de résilience sur la crise alimentaire. Une équipe du FMI vient d'achever sa mission en Tunisie dans le cadre de négociations sur un programme d'aide aux pays en crise. L'institution évoque des progrès satisfaisants concernant les paramètres des politiques et réformes économiques devant être menées par les autorités de Tunis et qu'encadrera un programme appuyé par le FMI. Les discussions se poursuivront les semaines prochaines.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Athlétisme pour commencer avec les mondiaux qui ont lieu à Udine, ici aux États-Unis.
Oui, il est très attendu aux 200 mètres ce jeudi. Le nouveau phénomène du sprint américain, Irayon Knighton, prétendant à l'or mondial, était promu au football américain. Avant de se mettre à l'athlétisme il y a seulement 3 ans, Knighton s'est fait un nom fin avril. Quant à 18 ans et encore lycéen, il est devenu le quatrième meilleur performeur de l'histoire sur 200 mètres en 19 secondes 49 en Louisiane. La saison précédente déjà, Knighton avait marqué les esprits en battant à 2 reprises le record du monde junior, alors propriété du Jamaïcain Usain Bolt depuis 17 ans pour se faire une place dans l'équipe olympique américaine. Hier, le Brésilien Alisson dos Santos a enlevé le 400 mètres haies avec le troisième meilleur chrono de tous les temps, 49 secondes 29. Dos Santos, médaillé de bronze olympique l'été dernier à Tokyo, a devancé 2 Américains, Ray Benjamin, médaillé d'argent olympique il y a 1 an, et Trevor Bassett. Dos Santos apporte au Brésil la première médaille mondiale de son histoire sur 400 mètres haies.
Les CAF Awards ont lieu ce jeudi à Rabat, au Maroc.
La CAF a dévoilé hier la liste des 3 nominés dans chaque catégorie pour le titre de meilleur joueur africain masculin de l'année. Le vainqueur en titre, le Sénégalais du Bayern Munich, Sadio Mané, est favori à sa propre succession. Il fera face à son ancien coéquipier de Liverpool, l'Égyptien Mohamed Salah, et à son équipier en sélection, le gardien de but, Édouard Mendy. Chez les dames, on retrouve la quadruple lauréate Aziza Oshoala, joueuse du FC Barcelone et du Nigeria, en quête d'une 5e couronne. Cependant, elle doit faire face à une forte concurrence de la Camerounaise Adjaran Chutonjoya et de la nouvelle venue Grace Chanda de Zambie.
Juan Micha prolonge son contrat avec l'équipe nationale de la Guinée équatoriale.
L'Équato-Guinéen est désormais lié au Tsalang national jusqu'en 2014. Nommé entraîneur intérimaire en 2020, puis titulaire en 2021, Juan Micha est le sélectionneur national ayant réalisé le plus grand exploit avec la Guinée équatoriale. Il a atteint les quarts de finale de la dernière CAN au Cameroun où il a été éliminé par le Sénégal. En 8e de finale, le coach équato-guinéen et ses poulains sont sortis vainqueurs du duel les opposants au Mali au tir au but après un score de 0-0 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations.
Serena Williams et Novak Djokovic sur la liste des engagés pour l'US Open.
La superstar américaine du tennis et le Serbe figurent tous deux sur la liste des engagés pour l'US Open. Cependant, dans le cas de Novak Djokovic, son refus de se faire vacciner pourra l'empêcher d'entrer aux États-Unis. Serena Williams, qui a remporté le premier de ses 6 titres à l'US Open en 1999, reste à 1 titre des 24 victoires en Grand Chelem, le record établi par l'Australienne Margaret Court. Novak Djokovic a remporté son 21e titre du Grand Chelem à Wimbledon et voudra arracher un 22e à l'US Open, qui commence le 29 août. Il a déjà remporté 3 fois ce tournoi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Après le retrait du Mali et 5 années d'opération au bilan très critiqué, l'organisation du G5 Sahel cherche un second souffle pour faire face à une dégradation continue de la situation sécuritaire au Sahel. Le G5 Sahel peut-il survivre? Eric Manira Kidza, adjoint à Paris, Sédic Abba, auteur de l'ouvrage Mali-Sahel, notre Afghanistan à nous.
Il est évident que le G5 Sahel a été conçu pour 5 pays, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. À partir du moment où le Mali se retire du G5 Sahel, l'existence de l'organisation devient problématique. Je suis convaincu que toute autre solution qui ne passerait pas par des démarches pour convaincre le Mali du G5 Sahel me paraît peu efficace dans l'avenir.
Les 4 membres restants vont se réunir bientôt pour essayer de garder en vie le G5 Sahel et le rendre viable. Comment faire subsister une force conjointe sans le Mali, pivot et épicentre du conflit?
Le Tchad notamment a clairement dit qu'il faut convaincre le Mali de reconsidérer sa position. Il n'y a aucune possibilité d'efficacité de la force conjointe sans le Mali parce que aujourd'hui tous les défis de la force conjointe, l'insécurité au Sahel se trouve dans ce qu'on appelle la zone des 3 frontières qui est commune au Niger, au Burkina et au Mali. Elle ne se retrouve ni au Tchad ni en Mauritanie. Donc on ne peut pas faire un G4 Sahel qui exclurait le Mali parce qu'il n'y aurait pas d'efficacité sur le plan opérationnel. Il faut que le Mali fasse aussi pour que, notamment, on puisse avoir des résultats concrets dans la lutte contre l'État islamique au Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux combattants qui sont très actifs dans la zone des 3 frontières. C'est au niveau de la zone des 3 frontières que se trouve la menace. C'est à ce niveau-là qu'il y a une importance. Et cette zone-là concerne aussi le Mali. Donc on ne peut pas faire un sommet de 4 chefs d'État et à partir de ce sommet, redynamiser la force conjointe. Si on n'associe pas le Mali, ça ne paraît pas efficace, ça ne paraît pas faisable, ça ne paraît pas crédible et ça n'aura pas d'impact si on n'associe pas le Mali. Je crois qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de reprendre langue avec Bamako, rediscuter avec Bamako pour voir quelles sont les conditions qu'on pourrait créer pour que le Mali revienne dans le G5 Sahel et c'est ça seulement qui peut sauver le G5 Sahel.
Entre-temps, les djihadistes gagnent du terrain.
Oui, c'est exact. La menace au coup de but ne concernait que les pays du Sahel. Depuis un moment, on constate qu'elle s'est définitivement installée au Bénin, qu'elle s'est installée au Togo. Le Togo a subi 2 attaques successives en moins de 5 jours. Donc, il y a aujourd'hui une extension de la menace au-delà du Sahel pendant que les pays cherchent à renforcer la force conjointe. Au-delà de ça, il a été acté en février la nécessité de mettre en œuvre la coordination entre les pays du G5 Sahel et le pays de l'initiative d'Accra, qui regroupe les pays du Golfe de Guinée, le Burkina Faso, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Ghana. Et donc, cette initiative-là, pendant qu'on est en train de chercher à la mettre en œuvre, la coordination entre l'initiative d'Accra et le G5 Sahel, les groupes djihadistes, pendant ce temps, gagnent du terrain, renforcent leur présence dans les pays qui sont déjà concernés, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, mais gagnent encore du territoire en portant leur menace au-delà du Sahel, dans les pays du Golfe de Guinée, que sont le Bénin et le Togo. Et ils n'attendent pas. L'agenda, aujourd'hui, profite plus aux groupes djihadistes qu'aux pays du G5 Sahel et aux pays du Golfe de Guinée, qui sont la cible désormais des groupes djihadistes.
Sédic Abba, auteur de l'ouvrage Mali-Sahel, notre Afghanistan à nous.
Parlez de VOA Afrique à vos amis. VOA Afrique au Mali, c'est 102 FM Bamako, 106.1 Gao et 90.3 FM Tombouctou.
Au Cameroun, le ministre de la Défense a reconnu pour la première fois de graves violations des droits de l'homme par les militaires contre les civils dans la lutte contre les séparatistes anglophones. Il a ordonné l'arrêt de ces violations. Dans le passé, l'armée avait qualifié ces abus d'actes isolés. Les groupes de défense des droits et les victimes saluent cette déclaration tout en exprimant des doutes sur la fin de ces abus. De Yaoundé, un reportage de Moki Edwin Kinzeka. Le récit est de Claire Morin-Gibourg.
Devait mettre à la disposition de la justice, sans état d'âme ni complaisance, les contrevenants aux lois et règlements de la République, en invitant par ailleurs vos collaborateurs et subordonnés au respect des procédures et à une gestion légale des libertés publiques.
Le ministre de la Défense a son mot, s'est exprimé à Bamenda lors de l'installation des généraux Bouba Dobekréo et Ousseni Djibo en tant que commandant des troupes combattant les séparatistes. Le ministre n'a donné aucun détail sur ce qu'il a qualifié de graves violations, mais a appelé les nouveaux commandants à veiller au respect des droits de l'homme. C'était la première fois que le ministre de la Défense parlait publiquement de ce sujet. Le porte-parole militaire, le colonel Cyril Serge Atonfa-Guémo, a déclaré dans un communiqué de presse du 7 juin que 4 soldats déployés pour enquêter sur la mort de leurs collègues ont tué 9 civils, dont 4 femmes et un bébé. Étienne Akinfort est un militant. Il reste sceptique car il ne croit pas que ces militaires seront traduits en justice.
La situation ne cesse de s'aggraver lorsque de nouveaux généraux militaires sont nommés. Donc, je pense que le moyen de sortir de cette situation est de renvoyer l'armée à la caserne. S'il y avait un cessez-le-feu, vous n'auriez pas de troupes sur le terrain commettant des atrocités.
Il s'est dit surpris d'apprendre que le général Nka Valère, commandant des troupes qui ont commis des atrocités dans le nord-ouest anglophone, n'a jamais été appelé à répondre de ces actes. La semaine dernière, le général Nka a été promu à la tête du collège de guerre de Yaoundé par le président Paul Biya. Des responsables camerounais affirment qu'au moins 13 soldats sont en détention provisoire pour des infractions. En avril 2020, l'armée a cédé à la pression et a reconnu que ses troupes étaient responsables du meurtre de 3 femmes et de 10 enfants en février de la même année à Ngarbou, un village du nord-ouest. Les Nations Unies avaient déclaré qu'au moins 21 personnes avaient été tuées, dont 14 enfants.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Guinée, le faible nombre d'admis au bac relance le débat sur la qualité de l'éducation dans le pays. Avec 9% de taux de réussite cette année, la Guinée vient d'enregistrer l'un des pires résultats de son système. Ce résultat est la conséquence de la dégénérescence du système éducatif, expliquent les autorités de l'éducation guinéenne. Le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation avait alerté parents et élèves sur sa politique de tolérance zéro. La correction a été sécurisée, des raisons qui peuvent expliquer ce faible taux de réussite. D'autres raisons sont ailleurs, selon Mori Konaté, encadreur.
À l'état aujourd'hui, d'évaluer en grande partie, il faut oser le dire, il y a beaucoup d'enseignants, mais l'ensemble de ces enseignants n'ont pas la capacité, des fois dire intellectuelle et pédagogique, pour pouvoir enseigner et faire passer le message réel. Deuxièmement, il faut essayer de voir aussi les infrastructures éducatives en République de Guinée. Vous avez déjà 60 élèves à 80 élèves par salle. Pour un enseignant de 2 heures de temps, il ne peut pas avoir cette capacité intellectuelle d'interroger.
Même si c'est un secret de polichinelle de dire que le système éducatif guinéen est défaillant, certaines écoles privées prouvent le contraire. La première de la République en sciences sociales est une candidate du complexe Saint-Georges. L'école a fait de très bons résultats.
Je m'appelle Denise Menintunkara, j'ai été élève en terminale sciences sociales au complexe scolaire Saint-Georges. J'ai travaillé dur puisque je me suis vraiment concentrée sur les études 7 jours sur 7, 24 sur 24, j'ai travaillé. Et les conditions ont été créées principalement, non seulement par mes parents, par mes professeurs et par mes encadreurs. Parce que mes encadreurs et mes professeurs, ils m'ont beaucoup aidé. Ils ont été perspicaces, tenaces et vraiment patients. Patients avec moi, avec les cours de révision à l'école. Mes parents aussi, ils ont vraiment créé un cadre social à la maison dans lequel j'ai pu réviser. Donc c'est de cette façon-là que j'ai pu préparer mon examen. Les révisions à la maison, à l'école et avec les évaluations à chaque fois que je regardais l'évolution de mon niveau.
Depuis plusieurs années, le taux de réussite ne dépasse pas les 30% au baccalauréat. Pour cet analyste de l'actualité guinéenne, les élèves s'écartent de l'objectif. Mohamed Kaba.
On a tout le temps dit qu'il faut faire les états généraux de l'éducation, mais c'est laisser l'être mort dans les tiroirs.
L'éducation, on n'en fait pas une priorité dans les faits, mais dans le langage courant, c'est une priorité selon une certaine opinion. Alors, moi je pense que ces 9% reflètent le niveau réel de l'apprenant guinéen. Parce que, écoutez, cher monsieur, et lorsqu'un candidat au baccalauréat passe son temps à surfer sur Facebook, lorsqu'un candidat au baccalauréat passe son temps à faire des selfies, lorsqu'un candidat au baccalauréat passe son temps à faire TikTok, qu'est-ce que vous voulez derrière ? C'est la catastrophe.
Cette année, 91% des candidats qui ont affronté les épreuves de baccalauréat ont échoué. Conakry, Zakaria Camara, pour VO Afrique.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a présenté ce mercredi à Abuja la restructuration de la société pétrolière nationale qui ne dépendra plus du financement de l'État. La Nigerian National Petroleum Corporation devient la Nigerian National Petroleum Company, une société à responsabilité limitée. Certains experts en énergie estiment que cette transition doit être accompagnée de réformes. Reportage de Timothy Obiezu à Abuja et récit de Nathalie Barge.
Mohamedou Buhari a précisé que la nouvelle compagnie pétrolière va fonctionner de manière indépendante, sans dépendre des règles du gouvernement. Il a estimé qu'il s'agit d'un moment historique pour l'industrie pétrolière nigériane et que cela va garantir la sécurité énergétique du pays.
Notre pays accorde une grande importance à la création d'une atmosphère propice aux investissements et à la croissance pour stimuler notre économie et continuer à jouer un rôle crucial dans le maintien des besoins énergétiques mondiaux. Nous transformons notre industrie pétrolière afin de renforcer sa capacité et sa pertinence sur le marché pour les propriétés énergétiques du présent et du futur.
La transition de la compagnie nationale entre dans le cadre d'un projet de loi sur l'industrie pétrolière signé par M. Buhari en août 2021. Emmanuel Afimia, fondateur de la société de conseil en énergie Enermix Consulting Limited, affirme que les dirigeants des compagnies pétrolières doivent dépasser le statu quo.
L'un des problèmes que nous avons toujours eu au Nigeria est le problème de la mise en œuvre. Si la NNPC peut réellement faire ce qu'il faut, si les autorités de régulation peuvent également faire ce qu'il faut, alors je pense que la NNPC pourra atteindre ses objectifs de maximiser les opportunités, la production et aussi les profits dans l'industrie.
L'expert estime que si elle est bien gérée, l'entreprise pétrolière pourrait attirer davantage d'investissements.
Avec cela, les problèmes de financement seront résolus car la NNPC peut simplement puiser dans sa bourse pour apporter des fonds pour financer des nouveaux projets pétroliers et gaziers sans avoir à attendre que le président ou la Chambre d'Assemblée approuve quoi que ce soit. Cela garantirait que le pays est capable d'agir rapidement et les investisseurs seraient alors suffisamment confiants pour investir dans la NNPC.
Les autorités nigérianes affirment que la société pétrolière pourrait même entrer en bourse d'ici l'année prochaine. Le Nigeria, plus grand producteur de pétrole d'Afrique, possède aussi d'énormes réserves de gaz naturel, mais le pays manque de raffineries et de réseaux électriques fiables. Des millions de personnes subissent les délestages récurrents, les pénuries de carburant et les prix élevés de l'énergie.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.